RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes à Barcelonnette ce soir au terme de la 18e étape du Tour de France dans un cadre plutôt champêtre. Nous sommes descendus de notre camion studio qui va prendre la route parce qu'il y a une très longue route pour nos chauffeurs. Et si on veut que le studio soit installé demain à Isola 2000, eh bien on est obligé de se mettre dehors sur une magnifique table de pique-nique. On est bien là. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Christophe, il manque le pique-nique.
Ah mais il manque le pique-nique.
Mais il arrive.
Par contre, il manque pas les mouches, hein, j'ai l'impression Christophe.
Il y a Cyril qui est allé chercher du saucisson. Regarde, il revient avec le saucisson et ses classements quand même.
Jérôme, surtout les classements.
On peut peut-être voir des loups, sinon. Ça va, Jérôme ?
Oui, bonsoir, messieurs. J'ai vu des crottes de loups en venant. T'avais raison, non, Christophe. Plein de choses en sortant de notre camion.
On s'approche du Mercantour, et dans le Mercantour, il y a des loups. On en a vu hier un avec Arnaud, qui a confirmé ça tout à l'heure. T'as vu un loup, toi aussi ?
Mais moi, j'ai vu un lynx, par contre, cet après-midi, qui courait dans un champ.
Eh ben, dis donc. Voilà. Notre vieux renard à nous est là également. Il va mettre son casque. On est bien, hein, Cyril, ça nous rappelle les années folles.
Ah oui.
Hein, quand on faisait les émissions comme ça tous les soirs dehors au pied de notre camion
sur
à pizza.
Sur un trottoir ou un banc public.
Voilà, en direct de Barcelonnette, donc pour revenir sur cette 18e étape qui a vu une nouvelle fois une grande bagarre aujourd'hui, une magnifique bagarre avec 36 hommes qui ont réussi à prendre la poudre des scampettes et à compter jusqu'à 15 minutes d'avance sur le peloton qui aujourd'hui avait décidé de laisser carte blanche aux échappés. Et au bout du compte, eh bien, c'est un Belge qui s'impose ici à Barcelonnette, Victor Campenaert, ancien recordman du monde de l'heure, qui a été le plus rapide, le plus malin des trois dans ce groupe. On rappelle qu'il y avait également Matteo Verscher et Michael Kartofsky qui se sont fait avoir par la puissance du Belge.
Ça s'est joué à peu de choses, très peu de choses. C'est Matteo Verscher qui a lancé le premier les hostilités dans ce dernier kilomètre. C'est lui qui a le moins d'expérience. Il a tenté le coup. Derrière, Mira Kartofsky avait du mal un petit peu ou se méfiait aussi de Campenaert. Et puis finalement, dans les derniers mètres, c'est Campenaert qui place l'accélération. Verscher termine deuxième devant le Polonais. Suivront Skuyens, Lascano, Lemmens, Nylands, Hindley et Van Aert, 9e, qu'on a longtemps pensé comme le grand favori de cette étape. Et puis finalement, il a été piégé dans cette grande échappée du jour, à l'image de l'étape d'hier également. Ça s'est joué là. Le maillot jaune et tous les favoris du Tour étaient très loin derrière, à plus d'un quart d'heure.
Alors on va revenir tout à l'heure sur la performance de Matteo Verscher, jeune coureur français qui dispute son premier Tour de France. Mais tout d'abord, revenons sur cette étape. C'était tout à l'heure dans l'intégrale Tour de France.
Précédemment dans l'intégrale Tour sur RMC.
On est vraiment au pied de cette côte de Saint-Apollinaire et Benilly tout de suite pour l'équipe Education First, encore 7 km d'ascension et ça réagit derrière avec les coureurs de l'équipe Bora et l'équipe Israël également. Je suis derrière Johannessen qui a glissé juste derrière dans ce virage alors que Campenaert et Verscher sont dans le sillage de Kwiatkowski.
Il fait mal là, il est arrêté sur le bord de la route, il a réussi à se relever mais il se tient le côté de gauche. Et nous avons donc un Français dans ce trio de tête. Matteo Verscher, c'est pas le plus connu des coureurs français, 23 ans seulement.
Oui, pour l'instant, le groupe Hindley Lascano n'arrive pas à reprendre. Toujours 45 secondes, 6 km à parcourir. Il reste encore. Et derrière, le groupe Carapaz, Van Aert est battu, hein, 1 minute 06. On rappelle, le peloton, lui, à un quart d'heure.
RMC, la flamme rouge.
La bagarre, attention, 24 secondes seulement. Et il place son attaque, Matteo Verscher. Il se méfie, Kwiatkowski de Campenaert. Vas-y Matteo, on sait jamais, ne regarde pas derrière. Oui, finalement Matteo Verscher s'est relevé.
Les cuisses sont éclatées,
il se replace en troisième position derrière Victor Campenaert. Kwiatkowski en première position, il reste 200 mètres. Victor Campenaert finalement attaque. Qui place son accélération comme sur la piste, mais je crois qu'il est un peu sec Victor Campenaert. Non, il va réussir à y aller, il ferme la porte à Matteo Verscher qui est battu par Victor Campenaert. Deuxième Matteo Verscher, troisième Kwiatkowski.
Voilà la victoire de Victor Campenaert tout à l'heure, donc dans les rues de Barcelonnette. Il s'impose devant Verscher et devant Kwiatkowski. C'est pas un débutant hein, qui remporte la victoire aujourd'hui, Jérôme. C'est un vieux routier belge de 31 ans qui avait été l'année dernière et désigné super combatif du Tour de France, qui nous avait régalé, qui avait dominé Thibaut Pinot d'ailleurs. On était un peu déçus d'ailleurs que Thibaut n'ait pas le titre de super combatif aujourd'hui. Eh bien, il remporte cette étape. C'est son premier succès sur les routes du Tour.
Ouais, premier premier succès sur les routes du Tour. Il avait déjà gagné au Tour d'Italie. C'est un formidable rouleur, hein, Kampenaerts. Il a été recordman du monde de l'heure, deux fois champion d'Europe du chrono. C'est vraiment un, alors il est plus souvent dans un rôle d'équipier, mais un formidable rouleur. Et c'est vrai que quand vous sortez avec un coureur comme ça sur une partie, même si c'était pas tout plat pour arriver ici à Barcelonnette, mais plutôt roulante, voilà, avec Kwiatkowski, avec Matteo Verscher, bah c'est forcément un bon soldat que vous avez avec vous. Mais on a vu, on en parlait pendant le direct, qu'il a quand même une bonne pointe de vitesse et il a surtout été très très malin.
Il a bien joué le coup, hein, Cyril, parce qu'il a laissé Verscher attaquer, Kwiatkowski faire le travail pour boucher le trou, et puis derrière, bah, il a réglé tout le monde. Dans ces cas-là, il faut savoir réfréner ses ardeurs et attaquer le dernier quelque part.
Il faut savoir bluffer, tout simplement. Il l'a parfaitement fait au moment où Matteo est sorti. Il est sorti d'ailleurs un petit peu, comme on dit dans le jargon, un petit peu en rame, pas sur une véritable attaque. Il a accéléré l'écart, a grossi un petit peu, une dizaine de mètres. Et là, Kwiatkowski eh bien, a craqué. Il a eu peur que le jeune Français s'en aille. Il fait l'effort pour aller le chercher. Verscher se rend compte à ce moment-là que ça revient très près et il se relève. Alors moi, je dis en direct, oh, il a dû avoir les cuisses qui ont éclaté, ce qui pouvait être logique. Eh bien, je crois que non, je crois qu'il s'est relevé avant, justement. Il s'est replacé en troisième position. Et puis après, eh bien, Kampenaerts a fait le sprint qu'il avait à faire. Il a eu un petit problème de chaîne, d'ailleurs, au moment où il démarre, parce qu'il décolle sa roue arrière. C'est-à-dire qu'avec un manque de réussite de Kampenaerts et puis Matteo Verscher gagnait.
C'est un homme des fins de tour, hein, quand même. Hein. L'an passé, on se souvient que l'étape qui avait été gagnée par Casper Asgreen, cette fameuse étape où il y avait une échappée qui avait été tenue en laisse à une minute par le peloton et finalement qui s'était imposée. Kampenaerts était déjà dans cette échappée ce jour-là. Et il faut savoir aussi qu'il avait visé cette étape, il l'a dit lui-même, hein, dès le mois de décembre. Il avait regardé le parcours. La seule étape où il voyait capable de gagner, c'était celle-là. Donc, bah, mission accomplie, j'ai envie de dire, c'est la force du champion aussi.
Ouais, mais la différence avec l'année dernière, c'est que cette année, il a pris le risque de perdre pour pouvoir gagner. Quand Matteo Verscher est parti, il a dit, en gros, dans sa tête à Kwiatkowski, soit tu y vas, soit on perd tous les deux. Et là, c'est là où il gagne l'étape. C'est quand c'est Kwiatkowski qui va faire l'effort. Là, il avait quasiment la course gagnée parce que Matteo Verscher avait déjà fait son effort et Kwiatkowski aussi pour boucher le trou. Et en fait, il a tout misé sur Kwiatkowski et soit Kwiatkowski bouche le trou et perd l'étape ou soit ils perdent l'étape tous les deux.
Ouais, c'est une partie de poker menteur. Hein, c'est une partie de poker menteur, ouais. dans ces cas-là. Hein,
mais ils ne pouvaient pas prendre le risque tous les deux. Les deux équipes n'ont pas gagné.
Oui, oui. Ni l'une ni l'autre.
Ni voilà. L'autre et surtout Ineos.
Ouais, surtout Ineos qui est quand même l'une des plus grosses équipes du Tour de France et qui va sans doute terminer ce Tour Fanny, à moins que...
Geraint Thomas marche bien sur ces deux dernières étapes, mais s'il y a l'explication au sommet, il sera en retrait quand même.
Ouais, après ils ont leur leader Carlos Rodriguez qui est sixième au général, mais à 13 minutes 30, il pourrait presque anticiper. Alors je dis pas de partir dans l'échappée matinale, mais ouais, dans une dernière difficulté.
Quand même,
bah non, mais toi, typiquement demain dans la montée Isola 2000, s'il anticipe un petit peu, ils vont pas aller le chercher. Et eux, ils vont se faire la guerre entre Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel. Après, est-ce que tu as les jambes pour aller si tu es à...
C'est un peu ce qui s'était passé l'an passé quand il gagne, hein, en bas de Jouplan. Hein.
Exactement.
Il revient en haut de Jouplan sur Vingegaard et Pogacar, la fameuse étape où il y a la moto qui empêche Pogacar d'attaquer. Mais derrière, les deux se regardent et lui, il en profite.
Voilà, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand vous avez une formation comme Ineos, le budget qu'ils ont, les coureurs qu'ils ont, l'année dernière, ils sauvent leur tour là-dessus. Hein. Et si vous avez regardé la saison Netflix, ça chauffait un petit peu. Donc là, ils ne doivent pas être sereins quand même, les coureurs d'Ineos et le staff. Voilà, quand vous avez un gros budget...
Quand on se souvient de la domination exercée par cette équipe, hein, on rappelle, c'est la descendante de la fameuse Sky de Chris Froome et des autres.
Ouais, j'ai l'impression que ça a commencé à dérailler quand Bernal a eu sa chute, en fait. Il a gagné le Tour, après il y a eu la chute et en fait, ils ont tellement misé, à juste titre hein, d'ailleurs, sur le successeur de Froome, que ça soit Egan Bernal, et finalement, cette chute, c'est un peu tout cassé. Ils n'ont pas retrouvé un gros leader capable d'être aussi régulier sur les grands tours.
Et avec le décès aussi de Nicolas Portal, hein, qui était le directeur sportif, un super tacticien, malheureusement décédé il y a quelques années. Et depuis, eh ben, c'est plus compliqué pour la formation Ineos. En tout cas, tout à l'heure, sur la ligne d'arrivée, il y en avait un qui avait un grand sourire derrière sa moustache, Victor Kampenaerts, ce Belge donc, qui s'impose aujourd'hui. On va écouter sa réaction. Il était presque ému aux larmes tout à l'heure derrière la ligne d'arrivée.
En tant que pro, tu dois faire le Tour de France et gagner une étape. Tout le monde en rêve. Je ne suis pas nouveau, j'en rêve depuis très longtemps. Pour les différentes classiques, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai attendu très longtemps une prolongation de contrat et c'était très difficile. J'ai un bel avenir dans le cyclisme. Je suis arrivé au Tour super motivé. Nous avons une très belle ambiance dans l'équipe et l'atmosphère est juste incroyable. Nous allons bien célébrer la victoire ce soir.
We're gonna celebrate tonight.
Voilà, we're gonna celebrate, nous dit Victor Campenhardt. Ouais, pas trop quand même, parce que demain, il y a quand même une belle étape à se fader. Hein.
Entre parenthèses, l'Autodestiny, alors nous, ça nous occupe moins parce que c'est une équipe belge, mais l'Autodestiny qui sauve son tour, hein, un petit peu aussi, parce qu'ils étaient venus avec de gros espoirs pour Arnaud Delis, qui finalement n'a pas remporté une seule étape. Je ne sais même plus s'il a fait un seul podium sur le Tour de France dans des sprints, mais s'il en a fait un, c'est le grand maximum. Donc c'est quand même une belle manière de se sauver. On rappelle que c'est une équipe qui court après une licence World Tour, puisqu'elle avait été reléguée la dernière fois qu'il y avait eu le système de promotion-relégation.
Et quand... Oui, Jérôme, vas-y.
Oui, oui, et puis on l'a dit tout à l'heure, mais cette équipe belge est managée par un coureur français, Stéphane Hollot. Et puis, ils sont aussi à la recherche de sponsors, parce que Destiny, on sait, le co-sponsor, donc l'Autodestiny, Destiny, ils ne savent pas trop s'ils vont continuer. Gagner une étape sur le Tour de France, ça apporte aussi quand même un peu plus de sérénité pour l'équipe. Et pour aller chercher un sponsor, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais bien sûr, qu'ils pensaient, j'imagine, la trouver avec Arnaud Delis, ça n'a pas été le cas. Mais heureusement, ils sauvent leur tour avec Victor Campenhardt.
RMC, l'After Tour.
18e étape du Tour de France, remportée donc, on vient de vous en parler, par le Belge Victor Campenhardt de la formation l'Autodestiny, qui s'impose donc d'un rien, ou presque, devant Matteo Verscher, ce Français de la formation Total Energy, qui nous a vraiment surpris aujourd'hui, parce que quand on regarde son palmarès, eh bien, il n'y a pas grand-chose. Et aujourd'hui, il était dans le coup avec les costauds, avec Katowski, avec Campenhardt. On écoutera tout à l'heure sa réaction. Il était déçu, alors que là, il était quand même avec quand même des costauds. Pierre-Yves, parle-nous un peu de ce jeune homme. Premier Tour de France et presque une victoire.
Oui, c'est un rêve éveillé, évidemment, on le dit souvent, mais là, c'est pas galvaudé parce que Matteo Verscher, bon, il a commencé il y a très longtemps, hein, le cyclisme tout jeune, vers 6-7 ans. Et puis, c'était du côté d'Annecy. Il y avait un papa qui était ancien coureur, qui travaillait dans un magasin de cycle, une maman professeure de sport. Donc voilà, tout ça, ça vous donne des idées. Et il s'est mis sur le vélo. Le jeune Lyonnais a signé à l'UC Belleville, tout d'abord, où son père était aussi éducateur, puis au VC Vaux-en-Velin. Et puis, il est champion de France amateur en juin 2022. Donc ça, c'est vraiment le tournant dans la carrière de Matteo Verscher, qui n'envisageait pas forcément un jour de devenir professionnel. Il est contacté par l'équipe Vendée-U, la réserve de Total Energy, où il signe pro très rapidement derrière. Alors, bah, quand on arrive si jeune dans le peloton, on apprend. Il fait un bon début de saison cette année, mais il a une bactérie qui le prive d'un mois de compétition. Sur le Tour, vous ne le savez peut-être pas, mais lors de l'étape de Rimini, il arrive 30 minutes après Romain Bardet. Il souffre de déshydratation. Il perd 3 kilos dans cette étape. C'est aussi pour ça, sans doute, qu'on ne l'a pas vu beaucoup plus dans les jours qui ont suivi. C'est là, on apprend. On apprend aussi quand, sur une arrivée, on est en compagnie d'un ancien champion du monde, Michał Kwiatkowski, et avec Victor Campenhardt. Sans doute qu'il a énormément appris sur ces trois dernières semaines, Matteo Verscher, et le champion de France amateur deviendra peut-être prochainement un victorieux sur un grand tour, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, il nous a épaté, d'ailleurs, comme un certain nombre de ses équipiers de cette équipe Total Energy.
Et oui, on va en parler de cette formation Total Energy. Voilà, il termine deuxième. Ça aurait complètement changé sa vie s'il avait réussi à battre Campenhardt. Là, il restera un deuxième d'une étape du Tour de France. C'est magnifique.
Pour l'instant.
Mais ça, oui, pour l'instant. Mais ça se joue souvent à pas grand-chose. Hein.
Ça se joue à rien. C'est pour ça que si on revient à la toute première étape avec Frank Vandenbroek et Romain Bardet, ben voilà, Frank Vandenbroek fait deuxième, laisse la victoire à Romain Bardet alors qu'il semblait être le plus fort des deux, mais peut-être qu'il ne regagnera plus jamais une étape du Tour, Frank Vandenbroek. Et c'est pareil pour Matteo Verscher. C'est incroyable. Je ne pense pas qu'au départ du Tour, il s'imaginait arriver pour gagner une étape.
Surtout, c'est pas n'importe quelle étape.
Hein. Ben c'est
une
pas
étape
n'importe...
dans les Alpes, à la veille de l'étape Rennes, avec tous les cadors qui étaient là. Quand on regarde la composition du groupe de 36, franchement, il n'y avait que des costauds.
Mais
quoi.
Au départ, ce matin, t'enlèves les 10 sprinteurs qui restent et les 5 meilleurs au classement général. Tous les autres voulaient être dans l'échappée. Donc, il fallait déjà choper l'échappée parce qu'on savait que ça allait être la dernière qui allait se disputer une victoire d'étape. Et après, il fallait encore être malin pour sortir dans ce groupe-là. Lui, il est sorti dans la descente, en plus, Matteo Verscher. Donc, c'est-à-dire qu'il grimpe bien, qui descend bien, et il a pris tous ses relais avec Kwiatkowski et Campenhardt. Il n'a pas sauté un relais, donc aujourd'hui il marchait vraiment très très fort. Voilà, ça peut changer, ça aurait pu changer sa carrière, ça aurait pu changer sa vie. C'est pas fini, vu ce qu'il a montré aujourd'hui, vu les jambes qu'il avait, il reviendra sur le Tour et à mon avis il pourra en gagner une belle 10 très vite.
Et surtout, il avait dit « je veux faire un top 5 en début de saison dans une course World Tour ». Il a changé son entraînement, il est surtout très consciencieux, il essaye d'être le plus précis possible et on a le sentiment en tout cas que le travail paye. Moi, je ne serais pas surpris qu'on le revoie. Alors, je ne sais pas si ce sera sur la fin de saison, mais l'année prochaine, il faudra quand même le regarder de très près, regarder son évolution.
Et juste, j'étais en train de regarder sa saison 2023 puisqu'on parlait tout à l'heure de ce problème de santé qu'il a eu. 16 DNF quand même l'an passé sur des courses.
Et abandon, hein, les DNF.
Oui, pardon, did not finish. La course, donc 16 courses qu'il a été obligé d'abandonner, dont 5 d'affilée en fin de saison et notamment le Tour de Lombardie. Mais quand on regarde aussi, c'est un coureur sur lequel compte Jean-René Bernodeau parce qu'il l'avait aligné sur l'Amstel Gold Race, il l'avait aligné sur Liège-Bastogne-Liège. Donc voilà, on imagine en tout cas chez Total Energy un avenir plutôt sympathique pour ce coureur. Donc ça me paraît à peu près sûr qu'on le reverra. Et je peux vous dire que sa déception, ses larmes de rage étaient vraiment à la hauteur justement de la déception tout à l'heure au bus de Total Energy.
Eh bien écoutons-le justement nous dire toute sa déception, lui qui est passé tout près d'une victoire incroyable dans cette 18e étape du Tour de France. Mathéo Vercher.
C'est con ce que je vais dire, mais c'est de la déception. Mais non, dans 2-3 heures, je vais être content de moi, peut-être demain. Mais voilà, sur le coup, on veut tous gagner une course. Et puis, l'occasion sur le tour, il n'y en a pas beaucoup. Et faire deuxième, c'est un goût d'amertume quand même. Et je commence à réaliser sur le coup, mais tout compétiteur, il veut gagner. Et après, 2-3e, c'est bon pour moi. Ma jeune carrière, c'est très bien, mais quand on passe si loin, si proche d'un résultat sur le tour, voilà, je suis encore jeune, c'est ma deuxième année pro, mon premier tour, et j'aurais pu élever les bras sur le tour. Donc, ouais, c'est de l'amertume, mais c'est comme ça, c'est le jeu.
Cyril, l'amertume va disparaître ce soir ou demain, ou ça va lui rester un moment dans la tête ?
On ne le connaît pas suffisamment pour savoir quelles vont être ses réactions par rapport soit à cette amertume, soit finalement la satisfaction d'avoir existé sur le Tour de France. Et sa vie va quand même changer, même s'il n'a pas gagné, parce qu'il a démontré des choses. Pas qu'aujourd'hui, hier, depuis le nombre de fois où on l'a vu dans les échappées qui partaient de loin, à tel point qu'au bout d'une semaine, on s'est dit, tiens, il faut qu'on le surveille. Alors que tu le connais ? Non, je ne le connais pas. Oui, de nom. Et on ne connaissait rien de lui au début de l'année. Bon, l'an dernier, comme l'a dit Arnaud, il a eu énormément d'abandon pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais ça n'est pas normal. Mais ce qu'il a montré à la pédale sur ce Tour de France, ça veut dire que c'est un coureur qui a un gros potentiel. Il n'a pas raté un relais. Il a tourné comme Campanaert et Gatoski. Il l'a fait crânement son sprint. En jouant, en essayant même de partir en rat. Moi, je dis qu'aujourd'hui, son profil de coureur a été validé. Et pour moi, il a
Il a son permis de coureur cycliste, comme dirait Jean-René Bernardo.
Il faut qu'il finisse le tour. Non, mais moi par contre, c'est pas pour casser évidemment cette deuxième place, mais est-ce qu'il aurait pas pu faire mieux finalement ? Est-ce qu'il fait pas une erreur à essayer de partir en rat ?
Justement, c'est ce que j'allais dire. Là, il est déçu, c'est normal. Il est passé à ras de gagner une victoire d'étape sur le Tour. Ce soir ou demain ou après-demain, quand il va se retourner sur son Tour de France, il va être forcément content de ce qu'il a fait. Parce que pour moi, il ne fait pas d'erreur justement dans ce sprint. Parce que s'il ne tente pas ce qu'il tente dans le dernier kilomètre, il se serait dit « Ah ouais, si j'avais essayé ». Et comme a dit Cyril, dans le direct, il a dit « les cuisses ont explosé ». Non, il a été très malin, il s'est relevé pour se redonner une deuxième chance d'aller gagner. Quand vous êtes face à Kwiatkowski et Victor Campaner, parce que c'est votre premier Tour de France, je trouve qu'il a eu du sang-froid énorme. Et c'est peut-être pour ça aussi sa frustration, parce qu'il sait qu'il y avait quelque chose à faire quand même et qu'il est passé vraiment tout proche. Mais franchement, il n'aura rien à regretter, même si c'est une deuxième place un peu frustrante. Il peut être fier de cette deuxième place.
C'est l'une des deux révélations de la formation Total Energy. On n'oublie pas non plus Jordan Gégat, hein, qui hier termine 9e, je crois.
Et il est encore échappé aujourd'hui.
Et encore échappé aujourd'hui. Franchement, ces jeunes coureurs de l'équipe de Bernodeau nous régalent sur ce tour et font qu'aujourd'hui, avec une victoire d'étape pour Turgis, une deuxième place pour Vercher, plus les performances de Gégat, la 10e, 11e
place, qui est 11e, voilà, du
11e
classement,
au classement général. Franchement, c'est l'équipe française qui a le mieux marché, alors que au classement UCI, c'est pas la première des équipes françaises, loin de là.
Non, c'est la dernière.
Ouais. Ouais. Et c'est même pas une équipe pro tour. Alors c'est parce que vous n'êtes pas pro tour que vous n'êtes pas une bonne équipe. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'au départ, et même quand la sélection est sortie, moi j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, cette équipe, elle a pas le niveau pour être au Tour de France. Mathéo Vercher, notamment, était cité parmi les coureurs où certains se demandaient pourquoi il était là. Cette année sur le Tour de France, il montre à tout le monde qu'ils ont tort. Et depuis le début. De toute façon, Jean-René Bernodot, il a jamais construit ou rarement une équipe pour jouer le classement général du Tour de France. C'est vraiment des coureurs pour aller chercher des étapes. Oui, il y a eu Thomas Vauclair qui est passé proche de gagner le Tour, mais l'équipe, c'est un peu une surprise aussi que Thomas soit à ce niveau-là. Mais par contre, ça a toujours été des snipers. Ils ont toujours été chercher des victoires d'étapes et c'est toujours des coureurs offensifs.
Je ne sais pas si on se rend compte qu'ils n'étaient même pas invités sur le Critérium du Dauphiné il y a un mois, Total Energy. Donc ça dit tout quand même, effectivement, du rang dans lequel est rentrée cette équipe.
Grâce à leur tour, ils le seront l'année prochaine.
Ben, probablement, mais voilà, on leur avait préféré des équipes comme Q36. Voilà, ou d'autres équipes comme Tudor Cycling.
Et bon, ils ont eu des péripéties. On rappelle qu'ils se sont fait voler 11 vélos sur ce Tour de France. Il a fallu en redescendre de Vendée. Voilà, ils n'ont pas eu un tour non plus à côté assez facile. Et puis Steph Kras, vous en avez parlé, mais je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Mais lui aussi était dans la chute.
Exactement.
Hein, aux Pays-Bas.
Et c'était quasiment le plus gravement touché.
C'était le plus touché. Côte cassée, pneumothorax et vertèbre cassée. Il a dit dans une interview, à 20 cm près, j'étais mort. Donc pour vous donner une idée d'où il revient, il a pu reprendre au Tour de Slovénie, mais il revient d'aussi loin que Vingegaard et les autres.
Et j'imagine que le manager de la formation Total Energy, un certain Jean-René Bernodot, était comblé tout à l'heure, même si évidemment Matteo est passé tout près d'une victoire. On écoute JR Bernodot, ancien coureur de Cyril Guimard.
C'est le moins qu'on puisse dire, mais on a une équipe solide. On savait que l'étau devrait se desserrer à un moment donné, puisque depuis le départ de ce Tour, il y a une pression énorme sur plein d'étapes et les leaders, la hiérarchie se fait et on n'a pas raté notre étape, on a mis beaucoup de coureurs devant. Puis Matteo, c'était celui sans doute que vous n'avez pas mis beaucoup. Il me fait penser à Thomas Vauclair à ses débuts, c'est quelqu'un de précis, qui court juste, qui va très loin dans la souffrance, beaucoup d'émotions. Je savais que dans le plus mauvais des cas, Matteo Vercher, c'était un bon investissement pour l'avenir et il se retrouve à faire un super Tour de France.
Voilà, super Tour de France pour Matteo Vercher et pour la formation Total Energy qui va terminer équipe française la plus talentueuse, la plus en réussite de ce Tour de France, loin devant les prestations de Decathlon,
de Groupama. On n'est pas à l'abri que... Non, mais bon, on ne sait pas.
Franchement,
on n'est pas à l'abri.
Oui, on n'est pas à l'abri. Mais enfin, tiens, écoutons juste Sébastien Joly, qui est directeur sportif de la formation Decathlon, pour imaginer et faire un premier bilan de ce Tour de France, même si, évidemment, comme tu le dis, tout n'est pas encore terminé, tant que la ligne d'arrivée finale du Tour de France n'est pas franchie. Sébastien Joly.
Écoutez, on avait trois coureurs dans le groupe de tête, avec Bruno, Nico et Dorian. Donc, naturellement, par rapport à l'arrivée, on pensait un peu plus à Dorian. Bruno a été un peu moins bien qu'hier, ce qui se comprend. Il était échappé toute la journée, il avait déjà fait un joli numéro. Et puis ensuite, pas de bol, le Nuix qui tombe dans la descente fait une cassure, fait partir les cinq. Sinon, je pense que le final aurait pu être un peu différent. Et finalement, on a pris une responsabilité, on a préféré mettre Nico à rouler, parce qu'un final de course, tout peut arriver. On s'est rapproché fortement du compte de 5. Mais en tout cas, on n'a pas baissé les bras. Et en tout cas, les gars se sont bien battus. Et on est tombé sur un peu plus fort que nous.
Voilà, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, comme depuis le début de ce Tour, Decathlon AG2R, qui était l'équipe, on en parlait déjà hier, qui avait le plus d'ambition côté français, Pierre-Yves, sur ce Tour de France pour l'instant. Eux qui arrivent régulièrement à sauver leur tour avec une victoire en toute fin de tour, il va falloir demain et après-demain jouer, je ne sais pas comment, pour essayer de piéger les leaders de classement général.
Oui, et je ne sais pas si on leur a porté la poisse ou quoi, mais moi je reviens toujours sur cette discussion qu'on avait eue avec Jérôme, avec Vincent Lavenue, et qui nous disait... Oui, c'est formidable ce début de saison, mais la sanction de l'année, c'est le Tour de France. Et il ne faut pas rater le Tour de France. Or, ils sont, il faut bien le dire, en train de passer à côté. Il reste peu d'opportunités, mais on...
Dimanche déjà, tu Barça.
Voilà, et puis moi, je pense que les deux étapes de demain et après-demain, ça va être pour les gros, pour les cadors. Ça sera très compliqué. Il faudrait vraiment un concours de circonstances, une échappée qui prenne énormément de temps d'avance.
Mais tu crois que Félix Gall aura beaucoup
Félix Gall, il a gagné l'étape Rennes l'an passé, hein. Alors
oui, mais il n'était pas classé au général comme...
Oui, c'est vrai, mais alors il est quand même assez loin aujourd'hui. Je ne sais pas quel était l'écart à l'époque au col de la Loze.
Tu sais que dans le top 10, on va se marquer
qui,
pendant...
Qui sait que Félix Gall est sur le Tour de France cette année? Enfin, on ne le voit pas. Il ne fait rien, on ne le voit pas. Cyril, tu savais que Félix Gall était sur le Tour cette année?
Oui, parce que tu me l'avais dit, qu'il était sur la liste des partants.
Oui, c'est ça.
RMC, l'After Tour.
18e étape du Tour de France, remportée donc, et on vient d'en parler, par Victor Campenaerts, le Belge de la formation Lotto. On rappelle le résultat, le classement, avec toi, Pierre-Yves, donc victoire d'un Belge.
un Français qui termine juste dans la roue du Belge. On a rêvé tout à l'heure hein, d'une quatrième victoire d'étape française.
Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on s'est dit à un moment que Matteo Verchier allait pouvoir s'imposer. Il termine deuxième derrière Victor Campenaerts. Ça se joue à très peu de choses. Et puis Mira Kwiatkowski termine troisième. Et derrière, eh bien, on aura Tom Skuyens, Lascano et Lemmen. Et puis au classement général, quelques petits changements, mais c'est pour entrer dans le top 10. Certains se rapprochent tranquillement, et notamment Guillaume Martin. Mais pas de changement pour Tadej Pogacar, toujours leader devant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Ça bougera très certainement dans les jours qui viennent.
Oh oui, parce que le patron du Tour de France nous a réservé un dernier week-end, un sacré dessert avec une petite cerise sur le gâteau dimanche pour le contre-la-montre. Et le patron est avec nous dans le camion RMC, dans le camion studio. Bonjour Monsieur Prudhomme, comment ça va Christian ?
Bonjour Christophe, bonjour Pierre-Yves, bonjour Jérôme.
On est ravis de t'accueillir. On n'est pas encore au moment du bilan, parce qu'évidemment, quand il reste un tel week-end, mais les derniers jours vont être compliqués, on est déjà ravis de t'avoir aujourd'hui. Christian, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères de ce dernier week-end, ces deux étapes qui sont les deux étapes reines de ce Tour de France, et le contre-la-montre? Oui, il n'y aura pas de petites coupes de champagne et de petits fours dimanche. Enfin, on va se régaler.
Le final, les trois dernières étapes ont été conçues pour que tout soit possible. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai bien conscience qu'il y a de gros écarts au classement général, plus que l'on ne pouvait l'imaginer il y a même simplement 8 jours encore. Donc voilà, on va voir ce qui se passe à la cime de la Bonnette. Il y a une étape formidable demain avec trois ascensions à plus de 2000 mètres. Vars, évidemment, la Bonnette, l'arrivée à Isola 2000, ça veut dire une douzaine de kilomètres au-dessus de 2000 mètres d'altitude, là où, en théorie, Jonas Vingegaard est supérieur à Tadej Pogacar. Ce qu'on n'a pas vu, évidemment, sur le Galibier il y a presque 2 semaines, hein, bien évidemment. Et puis il y a Evenepoel qui semble être encore dans une forme épatante.
Ouais.
Donc on va voir ce que ça va donner. Il y aura forcément une bataille au sommet. Après, est-ce qu'elle nous dira la même chose que tous ces derniers jours, c'est-à-dire une domination écrasante de Pogacar, ou au contraire un Vingegaard qui revient au sommet? Je crains malgré tout que sa très grave chute du mois d'avril, évidemment, pèse, et que ce soit plutôt comme Pogacar l'année dernière, c'est-à-dire qu'en toute fin de tour, à un moment, il replie ses ailes, ce qui n'a semblé être le cas sur le noyer lors de l'attaque de Pogacar hier.
C'est déjà un miracle de trouver Vingegaard à ce niveau-là. Franchement, au départ du Tour, on n'imaginait pas qu'il puisse entrer dans le top 3 du Tour. Hein. On pensait qu'il allait vraiment faire ce qu'il pouvait, mais c'était pas grand-chose qu'on espérait. Hein.
Oui, mais en même temps, on a entendu tout et son contraire. Ce que je voudrais souligner, ce que vous avez déjà dit sur l'antenne de RMC, mais c'est Stefan Kras qui était le plus grièvement blessé dans cette chute et qui était aux portes du top 10, comme ça, tranquillement, sans faire de bruit. Mais c'est aussi quelque chose de remarquable. Ben, ça veut surtout dire que les sportifs de très haut niveau, ils ont une constitution différente, puisque tu adores le rugby comme moi. Anthony Jelon, quand il s'est rétabli avant la Coupe du Monde, tous les médecins disaient mais c'est juste pas possible. Bah oui, bah il était quand même là.
Quand on voit
passer Tobias Johannessen qui est tombé tout à l'heure, on comprend en voyant son épaule pourquoi les coureurs cyclistes parlent de pizza, parce qu'il a une pizza qui fait 10 cm sur l'épaule, et il est reparti. Il songeait qu'à une seule chose, comme tous les coureurs cyclistes professionnels, se remettre sur le vélo et perdre le moins de temps possible. Il est revenu dans le groupe Van Aert. Donc voilà, ce sont des sujets d'exception, ce sont des coureurs hyper courageux. C'est même ce qui fait leur marque de fabrique, les coureurs cyclistes, leur courage.
Je ne sais même pas s'il sera capable demain, Tobias Johannessen, parce que je voyais comment son bras était raide à gauche, s'il sera capable de se fader cette étape terrible qu'on espère pour lui, qui sera à l'arrivée à Nice, mais ça va être compliqué.
Oui, parce que Unox fait un très beau tour, ils sont tout le temps devant de maillot à pois des premiers jours. Abrahamsen. Voilà, jusqu'à Johannessen, ils sont là, avec Magnus Kort Nielsen aussi, ils sont là devant tous les jours.
Ouais. Ce tour, finalement, Christian, on en attend des monts et merveilles, pour l'instant on se régale, même si la différence pour l'instant semble faite, hein, parce que c'est sûr que l'enchaînement Giro-Tour de France pouvait laisser croire que Pogacar ait une journée de moins bien, mais on le sent une jambe, voire deux jambes au-dessus de ce qu'il était l'année dernière, il y a 2 ans.
L'étape parfaite, c'était l'étape du Cantal, c'était
pas
de Pérol, le Puy-Marie, le Col de Pertus, et l'arrivée au Lyon, où là vraiment, et quand dans certains journaux, peut-être chez vous, je ne sais pas, mais certains journalistes ont parlé de bascule, c'est ce que je pensais aussi. Mm-hmm. Je pensais qu'on arrivait à un moment où...
C'est dit, il est rentré dans la tête de Poggi.
Exactement,
en fait.
et puis les Pyrénées ont dit exactement le contraire. La première étape des Pyrénées, d'une première manière, parce qu'en fait, ils ont super bien joué avec Adam Yates, hein, que ce soit prévu ou pas, ils ont super bien joué, parce que la minute 30 supplémentaire pendant laquelle Yates est encore devant et tire son leader, elle fait la différence. Et le lendemain, en revanche, au plateau de Baye, ça, alors là, il y avait un gouffre total entre Pogacar, Vingegaard et tous les autres.
Quand tu construis ce tour, tu le dévoiles au mois d'octobre, qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu espères? Tu penses que ça va jouer, qu'on se serait retrouvé un peu comme on était au matin du contre-la-montre l'année dernière, avec ces quelques secondes
d'écart? Quand on fait un parcours, on rêve toujours. Ouais. Je te disais en antenne, il y a quelques minutes, quand on a décidé de faire Épernay, en 2019, hein, parce qu'en fait, à l'époque, on arrivait tout le temps à Reims, on repartait d'Épernay, sauf qu'Épernay, il y a des côtes tout autour. Quand on arrive à Reims, c'est forcément un sprint. Si on a Épernay, on peut avoir autre chose. Et on avait essayé déjà à ce moment-là d'avoir des chemins blancs. Et j'aurais aimé qu'on ait un panachage entre chemins blancs et côtes. Et Yannick Talabardon, Thierry Gouvenou, qui était sur les parcours, m'ont dit « Christian, c'est pas possible, faut que tu choisisses ». Et donc, on a choisi les côtes. J'ai pas eu à m'en plaindre, c'était du tableau noir. Julien Alaphilippe va gagner l'étape, et en plus, il est maillot jaune, c'est-à-dire que ça allait au-delà de toutes nos espérances. Mais ça, c'est le rêve du fan, du petit gars qui aime le Tour, que je suis toujours. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut pas savoir. Évidemment que, je reprends ce que j'ai dit il y a trois minutes, les trois derniers jours ont été faits pour que tout soit possible. J'ai bien conscience que quand je dis ça aujourd'hui avec le classement général, tout n'est peut-être plus possible.
Oui, oui.
Mais ce qui est possible, en revanche, c'est de voir Remco Evenepoel aller chercher la deuxième place.
Ah oui, tout à fait. Mais après, bien sur ce qu'on a vu au col du Noyer, sans aucun doute. Après, on a souvent des impressions contradictoires. Hein. On vient de le dire avec l'étape du Cantal, où tout d'un coup on disait mais Vingegaard lui rentre dans la tête, il sera plus fort. Et derrière, ça n'est pas le cas. Mais oui, il semble en tout cas être dans une forme remarquable. D'ailleurs, lui n'a envoyé aucun équipier devant. Aujourd'hui, c'est tout sauf un hasard.
Mais l'étape de demain, tu l'as dit tout à l'heure, trois cols à plus de 2000 mètres d'altitude, trois minutes, quand tu regardes le profil, il ne faut pas avoir un jour sans. Hein, parce qu'il y a plus de 12 km à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est gigantesque. Hein.
Alors, je n'y crois pas vraiment, mais malgré tout, l'écart entre Vingegaard et Pogacar au col du Granon, c'est 2,51, il y a deux ans, et la perte de temps de Pogacar sur Vingegaard à la Lowe, c'est 5,45.
Oui.
Voilà, alors si c'est, et ça semble être le cas, un Pogacar encore plus fort qu'il ne l'était en 2021, on va dire sa plus grande année sur le Tour de France, voilà, il sera devant, bien évidemment. Après, oui, comme le dit Jérôme, ça peut vite dégouliner les minutes quand on n'est plus en état.
Christian, comme tous les ans, lorsqu'il y a un coureur qui domine de la tête et des épaules le Tour de France, il y a des rumeurs qui naissent, souvent d'ailleurs véhiculées par des anciens coureurs du peloton. C'est eux finalement qui lancent le truc et ensuite on jette ça et on attend de voir ce qui retombe. Est-ce que toi, ça t'agace de voir qu'à chaque milieu de Tour de France, ces mêmes rumeurs sempiternelles qui reviennent constamment ?
Le doute est légitime, vu le passé du cyclisme, donc ça ne peut pas m'agacer. Après, nous, on s'est battu pendant des années pour qu'il y ait une instance indépendante de contrôle. Elle existe. Cette instance, c'est l'ITEA, l'agence de contrôle indépendante. Elle est présidée par Valérie Fondéron, qui a été ministre des Sports, qui est médecin du sport, qui a été maire de Rouen, qui est une femme remarquable. Je ne doute pas qu'il fasse tout ce qu'il faut faire pour attraper des tricheurs s'il y en a. Je ne peux rien vous dire d'autre. On s'est battu pour une instance indépendante. Il y a une instance indépendante. Elle ne doit pas être si nulle que ça, cette instance, puisque toutes les fédérations n'y sont pas affiliées, et surtout parmi les plus grosses. Donc j'imagine qu'ils doivent bien savoir faire leur boulot. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Le doute, on vit avec. Je peux vous confirmer que je suis toujours extrêmement sensible et favorable aux thèses du mouvement pour un cyclisme crédible de Roger Logeix, sans le moindre doute. C'est-à-dire aller au-delà des règles internationales, même si c'est compliqué, parce qu'après, les gens pensent que, voilà, si des règles du MPCC sont dépassées, même si ce ne sont pas des règles de l'Agence mondiale antidopage, bah, c'est que le vélo a triché, même quand ce n'est pas le cas. Mais oui, aller le plus loin possible, toujours, et même au-delà des règles de l'Agence mondiale, je suis pour, évidemment.
C'est compliqué de se dire, moi, j'aime le cyclisme d'attaque, un Tadej Pogacar qui ne va rien lâcher, qui va attaquer, et se dire, bah, il aura peut-être pas loin de 10 minutes d'avance, et forcément, la suspicion sera plus forte. Où penche la balance?
Je sais pas, moi je suis de l'époque de Cyril Limard.
Je suis de l'époque,
Cyril vient de rentrer dans le studio, je suis de l'époque où ma mère pleurait quand Cyril abandonnait en 72 sur la route du Tour. Donc les écarts étaient encore supérieurs à l'époque. Même si c'est vrai que sur l'étape du plateau de Bay, ben, ça faisait penser à des écarts d'autrefois, sans aucun doute, des écarts d'antan, d'un autre temps. Mais j'aime bien le cyclisme d'attaque.
Ouais, mais du coup, Pogacar, il pourra jamais... Enfin, jamais, ou il ne devrait peut-être pas vouloir marquer l'histoire, parce que lui, il ne va pas freiner pour pas avoir des suspicions. Non. Donc là, potentiellement, il peut gagner demain, après-demain, peut-être même le chrono, parce que c'est le meilleur coureur du monde. Mais peut-être dans sa tête, il va se dire, ok, j'en prends déjà plein la tête. Est-ce que je dois
pas faire un... J'ai pas l'impression que ça le...
Je ne le crois pas, parce que je pense pas qu'il n'aurait pas attaqué dans le noyer. Là, en fait, c'est ce que... J'ai entendu Bernard Hinault dire pendant des années, mais il faut qu'il retrouve, les coureurs cyclistes professionnels, le goût du jeu. Ben, on en a un qui a les moyens physiques d'avoir le goût du jeu.
Et c'est très voilà. bien. Et
il a donc il attaque partout, n'importe où, et il a trouvé un copain avec Evenepoel, en effet.
Christian, je suis désolé d'avoir fait pleurer ta mère.
Tu ne savais pas, Cyril. Hein
non, tu ne l'avais pas encore dit.
Mais au Mont-Revard, elle a pleuré de joie.
Mais vous avez œuvré ensemble ensuite. Hein. Vous avez commenté des courses ensemble. Bah,
j'ai eu la chance immense quand, à la 5. La chaîne de télévision qui a révolutionné l'audiovisuel français, n'est-ce pas, Christophe? Grâce à Derrick, notamment, pas seulement grâce à nous, grâce à Derrick. Et sur la 5, on avait la chance de diffuser beaucoup de courses cyclistes en dehors du Tour de France, puisque nous n'avions pas les droits. C'était déjà France Télévisions à l'époque, et c'est très bien. Et donc, on faisait les championnats du monde, l'intégralité des courses, la semaine, puisqu'à l'époque, c'était 15 jours, hein, une semaine de piste, une semaine de route, et j'avais le bonheur immense d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est toujours pertinent et qui s'appelle Cyril.
Tu as été journaliste pendant des années. Est-ce qu'aujourd'hui, ce métier te manque encore? Est-ce que tu as un peu la nostalgie de commenter le Tour de France ou de commenter d'autres grandes épreuves, comme tu l'as fait pour France Télé, pour Europe 1?
Non, parce qu'on est sans arrêt sur les routes, sans arrêt à rencontrer des gens, à penser au tour de suivant, ensuite deux ans plus tard, ensuite cinq ans plus tard, et que je rencontre sans arrêt des journalistes. Mes amis les plus proches, ils sont journalistes, ils étaient, c'est toujours mes amis les plus proches. Donc non. En revanche, je confirme qu'effectivement, ce qui m'a donné envie d'être journaliste, c'est le Tour de France, et que mon rêve, c'était de commenter le Tour à la radio, à la télé. C'était pas d'être directeur du Tour. Après, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui et j'en suis très heureux aujourd'hui. Je me rends pas du tout compte que ça fait 17 ans.
moi, c'est le 53e.
Hein.
Christian, est-ce qu'il n'y a pas un regret de se dire on n'a plus de Français capables de jouer le top 5 sur le Tour de France?
Cette année, on s'en doutait un peu. J'allais dire que les 10 premiers jours, ils étaient formidables avec 3 victoires d'étape que nul n'osait imaginer. La victoire d'étape et le maillot jaune pour Romain Bardet, magnifique. C'est un coureur formidable. Il a une carrière énorme, Romain. Deuxième, troisième du Tour, vice-champion du monde, deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Bravo, chapeau. La victoire de Kéin Vauclin, le jeune. Hein. Un ancien, le lendemain, un jeune. Exceptionnel, un vrai potentiel, des capacités de rouleur, du contre-la-montre, tu connais ça par cœur, Jérôme, formidable. Et puis après, Anthony Turgis, c'était aussi une sacrée belle récompense pour un gars qui est toujours placé dans le classique Flandrienne, puis boum, qui va gagner avec une famille complètement qui a tout donné pour le vélo. Je me doutais que ce serait plus dur ensuite. Malheureusement, c'est le cas. Là, on va pas rêver,
mais
on va pas
avoir un français, on va rester pour les années qui viennent.
Bah, après, voilà, il faut pas juger Romain Grégoire ou Lenny Martinez sur le Tour de cette année, ils ont 21 ans, tout juste pour Lenny Martinez, c'était il y a quelques jours, et c'était le début d'année pour Romain Grégoire. Ils sont tout jeunes, ils apprennent, ils seront là, puis il y en a d'autres qui arrivent derrière peut-être. Je ne connais que le nom de Paul Sexas, mais voilà, mais Paul Sexas, ben voilà, hein, peut-être que demain c'est lui qui gagnera le Tour, j'en sais rien.
Dimanche, on aurait bien aimé avoir un final comme dans, enfin, peut-être pas Cyril, parce que ça lui rappelle quand même de très mauvais souvenirs, ce Tour de France 1989, un chrono pour finir le Tour. Franchement, nous, on en rêvait depuis des années, tu l'as fait. C'est exceptionnel ou c'est quelque chose qui pourrait se reproduire? Pourquoi pas, même avec une arrivée à Paris, Christian?
Ça ne se reproduira pas l'année prochaine, en tout cas,
avec le
retour sur les Champs-Élysées pour les 50 ans de la première arrivée, de la victoire de Bernard Thévenet en 1975, Walter Gottfried au sprint, si je ne m'abuse. Voilà, là...
Mais là, on a 21 véritables étapes cette année.
Oui.
D'habitude, on a 20 et demi.
Pas pour les sprinteurs.
Non, bien sûr.
Pas pour les sprinteurs et pas non plus à l'international. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la dimension sportive du Tour qui est capitale, mais l'autre dimension du Tour de France. Celle qui fait que la dernière étape à Paris, c'est toujours à l'international une des plus fortes audiences, parce qu'après 3 semaines de combat, voilà. Évidemment que le final de 89, les 8 secondes, Greg LeMond, Laurent Fignon, ça reste gravé dans l'histoire du Tour et tout le monde rêve de ça.
Non.
De mon époque, il y a entre guillemets que la planche des belles filles. Mais si ça se joue l'avant-dernier jour, régulièrement, moi je suis satisfait.
Bien sûr. On aime un peu moins le champagne et les petits fours, mais bon, on est très exigeant, tu sais, tu nous connais.
Mais on va voir ce qui se passe sur les trois derniers jours. Bon. C'est en jamais.
Merci Christian d'être
avec
venu
un immense plaisir. Et puis, puisque c'est ton dernier, Cyril, chapeau, merci, et je te souhaite le meilleur pour les années qui viennent, hors micro.
Hors micro. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, il va falloir que je m'adapte.
on peut tenter quelque chose, Cyril? que Christian nous annonce que le Tour passe en Bretagne l'année prochaine. Bon. Si tu es au bord de la route, en Bretagne ou ailleurs, je m'arrêterai volontiers, mais pas dans les 30 premiers ni dans les 30 derniers, c'est pas possible. Choisis le milieu de l'étape.
Vous êtes déjà passé devant chez moi.
Guerre, bien sûr.
L'année où le Tour de France a traversé le camp de Couette-Quidan, l'école militaire. Oui, oui. Voilà. J'habite toujours au même endroit, donc si vous voulez faire passer le Tour devant chez moi, c'est toujours avec plaisir.
Il y a beaucoup de gens qui lui posent la même question tous les ans.
Mais c'est pas moi.
C'est pas sûr.
Ce qui est formidable, c'est que la plupart du temps sur le podium, au départ de l'étape, on me demande quand reviendrez-vous. Et ça, j'avoue que c'est une musique assez douce à mes oreilles.
Surtout en Bretagne. Hein, surtout en Bretagne. Là, ils l'attendent avec impatience, même si on a eu le grand départ du Tour il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, et un beau départ.
Et un magnifique départ, évidemment.
Avec beaucoup de symbolique.
Magnifique départ, et avec une région Bretagne qui avait accepté d'avancer d'un an, puisque c'était prévu un an plus tard, et en quelques jours, puisque tout s'enchaînait avec le Covid, les changements de date des Jeux Olympiques, de l'Eurofoot. C'est ça, en fait, qui avait provoqué notre départ. Hein. Il y avait des matchs à Copenhague. On était au même moment, et ils ne savaient pas assurer la sécurité, c'était tout à fait logique, mais du coup, la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, son président, a joué le jeu et tous les autres élus aussi, y compris le maire de Brest, François Cuyandre, bien sûr.
De mon côté, je suis très content que le Tour arrive à Nice. Hein. On est parti de Nice il n'y a pas longtemps, on arrive à Nice cette année. J'espère qu'il n'y aura pas de verglas d'été parce que ça m'avait lu quand même quelques petites boutades pendant quelques années. Hein.
Mais nous, on est très heureux d'arriver à Nice parce que pour la première fois, il va nous payer le repas.
Ouais, ça compte là-dessus.
On va faire un gueuleton dimanche soir. Ça va être une orgie.
Merci Christian. Merci bonne vous. Fin de Tour de France. Et on espère qu'on va se régaler. Mais on va sûrement se régaler demain, après-demain et dimanche pour l'arrivée de ce tour dans les rues de Nice et notamment sur la promenade des Anglais.
RMC, l'After Tour.
Et pendant que les Jeux Olympiques sont à J-8, la fin du Tour de France est à J-3, puisqu'il s'achèvera donc dimanche par le contre-la-montre entre Monaco et Nice. Dernier grand moment de ce Tour de France. Il n'y aura pas d'étape réservée aux sprinteurs cette année. En attendant, eh bien, ce sont les deux monuments, deux énormes étapes qu'attendent les coureurs du Tour de France, avec dès demain cette étape qui arrivera à Isola 2000 et puis celle d'après-demain au col de la Couillole. Jérôme, juste un petit mot. Je sais que tu as préparé celle de demain. J'imagine que tu as regardé les deux qui arrivent. C'est laquelle la plus dure des deux, finalement? Parce que là, à les regarder, on a un peu de mal à choisir. Hein.
Écoute, c'est difficile à choisir. Pour moi, sur le papier, c'est celle de la Couillole, la plus dure. Mais avec l'altitude de l'étape de demain, ça peut tout changer. Franchement, je pense qu'aucune des deux va être facile pour les coureurs. Et ces deux étapes qui ont le même format, des étapes courtes, hein, 144 km à chaque fois. Et puis, ça devrait être la dernière grande bagarre entre les favoris au classement général, avant le chrono, bien sûr, parce que ceux qui seront devant demain et après-demain, on va les retrouver aussi au chrono, hein, les Pogacar, les Vingegaard ou Remco Evenepoel. Mais demain, l'étape qui va en direction d'Isola 2000, en bras Isola 2000, deux cols hors catégorie, un col de première catégorie, il ne faudra pas avoir le vertige, hein, les trois cols à plus de 2000 mètres d'altitude. On a un départ, attention, c'est qu'on va quand même le noter, pas trop difficile, mais avec un sprint intermédiaire au bout de 21 km, on va voir si Philipsen et Guerma vont se faire la guerre.
C'est là qu'on va conclure le classement du maillot.
Il y a 33 points d'écart, il y aura 20 point en jeu, ça suffira pas. Non. Faudrait encore que samedi Philipsen puisse grappiller des points, ce qui paraît compliqué parce que le sprint intermédiaire sera après deux difficultés. Et voilà, après ce sprint intermédiaire qui sera déjà sur les contreforts du col de Vars, un col de Vars c'est 18,8 km à 5,7 moyenne, col de la Bonnette 23 km, 6,9% de moyenne, 2800 mètres d'altitude. C'est le col goudronné le plus haut de France, d'ailleurs. Une longue descente et on arrivera à Isola 2000, c'est 16 km à 7,1%. Et normalement, on devrait retrouver nos trois fantastiques, Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel.
Ça, ce sera pour le final à Isola 2000, on les retrouvera très certainement. Mais on a parlé du maillot vert. Peut-être que le maillot de meilleur grimpeur va se jouer aussi demain et ce ne sera peut-être pas ceux qu'on attend, c'est-à-dire Tadej Pogacar et Vingegaard qui le détiendront si, au calcul des points, un garçon comme Carapaz ou Lascano réussit à passer en tête les sommets, les premiers demain et puis essayer d'aller en prendre quelques-uns dans l'étape de samedi.
Ben, je me suis demandé pourquoi finalement la montée vers Isola 2000 et le col de la Couillole était classée qu'en première catégorie. Je me demande si c'est pas pour qu'il y ait moins de points justement et que ça laisse une chance aux autres qu'aux favoris du classement général d'aller chercher ce maillot à poids. Parce que quand vous regardez le col de la Couillole, c'est 15 km à 7%, et puis Isola 2000 c'est 16 km pareil, oui, à
7%. Habituellement c'est du hors catégorie.
Ben, ouais,
ça,
je vois,
hein,
pas pourquoi ils sont pas hors catégorie. Donc je pense que c'est peut-être pour laisser une chance aux coureurs intéressés par le maillot à poids de marquer plus de points sur Vars et la Bonnette sans que ça soit les leaders au classement général.
Je veux pas dire de bêtises, mais la Couillole a été empruntée plusieurs fois sur Paris-Nice et à chaque fois elle a été classée en première catégorie.
Ah ouais,
ouais, mais
donc
il faudrait
en première catégorie.
Ouais.
Bon, Isola, ça monte raide, c'est quoi? C'est 7,1% sur 16 km.
Ouais.
Là, ça méritait quand même peut-être un hors catégorie.
Vous avez vraiment 7-8 km Isola 2000 qui sont vraiment très durs. Là, ça tourne tout entre 7 et 10% de moyenne. Après, vous avez 2-3 km. Alors, ils ne sont pas à suivre d'ailleurs, mais 1 km plus facile, 1 km plus dur. C'est un peu plus irrégulier sur la fin, mais ça reste un col ultra difficile. Et bien sûr, là, si on doit faire des différences, il y a de quoi jouer.
Il y a de quoi faire.
Mais alors, pour revenir sur le classement des grimpeurs, on pourrait même parler de d'autres classements. Tous les ans, alors que ce soit les organisateurs du Tour de France, du Tour d'Espagne, du Giron, on va dire les courses de 3 semaines, les organisateurs essayent de trouver la solution qui ferait que. C'est-à-dire que là, on se dit, ah oui, mais si on mettait les points qu'on mettait il y a 5 ans, le classement, ça va être 1, 2, 3, les 3 premiers du classement général. Ce qui d'ailleurs n'est pas illogique. Puisque pour gagner le Tour de France, il faut être le meilleur grimpeur.
Et le meilleur grimpeur, c'est Pogacar. Donc, ce serait logique qu'il ait le maillot à poids.
On voudrait que ce soit quelqu'un d'autre.
Mais quand c'était le cas, on disait que ce n'était pas le meilleur grimpeur. Je me rappelle de Chartaud, par exemple, qui avait ramené le maillot à poids à Paris. Puis on a dit, oui, mais ce n'est pas le meilleur grimpeur du Tour. D'ailleurs, on n'est jamais content, en fait.
D'ailleurs, il n'y a que toi qui t'en rappelles.
Bon. Ouais, il faudra un classement du bagarreur de la montagne, peut-être.
Non, alors, je ne sais pas. C'est très difficile parce que ce sont des
meilleurs grimpeurs, c'est le vainqueur du Tour.
Ce sont des classements annexes. Et si je vais au bout du raisonnement, est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul classement qui compte?
Oui.
Bon, mais je vais au bout du bout.
Oui, enfin, le maillot vert, je pense pas aujourd'hui qu'il soit remis en cause dans sa...
Moi, j'ai vu des vainqueurs de tours avec le maillot vert sur les épaules.
Certes, mais bon, dans sa légitimité, ça fait quand même quelques années, je trouve que le maillot vert
récompense quand même soit
un coureur hyper régulier, comme ça avait pu être le cas avec Sagan, qui allait gratter des deuxièmes places au sprint et deuxièmes places en montagne, soit un coureur, comme on peut le voir cette année, hein, Jasper Philipsen ou Binnen Girmay, c'est bien de récompenser aussi les sprinteurs.
Ouais. Oui, c'est
non,
vrai.
Là, je suis d'accord avec toi, si tu veux. Mais sur ce genre de choses, ce sont des classements sur lesquels il faut raisonner pour faire le règlement en fonction des points attribués à telle étape ou pas telle étape. On diminue les points pour les arrivées au sommet et puis on les augmente sur les étapes de plat. Est-ce que ça, c'est logique ? C'est-à-dire qu'il faudrait trouver vraiment une norme qui permette d'avoir un classement.
Mais on rappelle que ce sont des classements annexes, hein, qui comptent évidemment beaucoup moins que le classement général, qui est le seul véritable classement de ce Tour de France. Excusez-moi, un mot quand même sur l'étape de demain. On va passer à la Bonnette, tu le disais, le col le plus haut, le col goudronné le plus haut d'Europe, la route, la cime de la Bonnette.
Non, pas d'Europe. De France.
Pas d'Europe.
Toujours pas.
On m'a toujours dit quand j'étais gamin que c'était la plus.
Je te dis trois ou quatre fois depuis octobre dernier, je suis
de la région, donc pour moi c'est le plus haut col d'Europe.
Il y a une route en Espagne qui est à plus de 3300 mètres d'altitude et qui est goudronnée. Et en réalité, il y a plus d'une.
Il y a personne qui passe dessus.
Il y a plus d'une vingtaine. C'est vrai que le Tour d'Espagne n'est jamais passé sur cette route-là, mais en réalité, il y a plus d'une vingtaine de routes goudronnées plus hautes que.
Ouais, mais là, le col de la Bonnette relie vraiment deux vallées et c'est vraiment.
La cime de la Bonnette, elle relie pas deux vallées.
Celle qui est juste en dessous, le col de Restefond.
Oui.
Non, mais attends.
Arnaud, tu connais l'histoire quand même de la raison pour laquelle cette route est la plus haute de France.
Vas-y.
C'est parce qu'il y avait le col de l'Iseron qui était haut, qui était très très haut en Savoie.
Donc on a fait la cime.
Et dans le 06, ils ont dit ça nous va pas, on veut la route la plus haute de France. Et donc ils sont montés et ils ont fait le tour de la cime.
Eh ben on a bien raison. Les Savoyards sont derrière nous.
Alors
il n'empêche, Cyril, c'est quand même assez rare que le peloton du Tour de France emprunte des routes qui passent à 2800 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça change? Parce qu'on dit qu'au-delà de 2000, ça change des choses. Mais là, on est quasiment 1000 mètres au-dessus, quoi, 800 mètres.
Oui, mais le Tour de France, il se promène partout. Il vient bien en Bretagne.
Oui,
il descend.
Bon, là, on est à 200 mètres maximum en Bretagne. On ne joue pas dans la même course, s'il te plaît.
Mais le Tour de France, il faut le construire. au travers de villes.
Non mais alors,
de régions.
Ça, je sais, je veux juste que tu me dises au niveau physiologique, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que certains pourraient connaître des défaillances justement à ces altitudes extrêmes pour un coureur?
À une certaine époque, oui.
Aujourd'hui,
aujourd'hui les coureurs s'entraînent tous en altitude, font des mois. D'ailleurs, ils commencent à se plaindre qu'ils en font trop, mais pratiquement tous.
Le volcan aux Canaries, il est à combien de mètres d'altitude? C'est plus bas. Hein.
Le Teide.
C'est autour des 3000.
Ah, quand même. Ah oui, 3000. Ah,
je pense. Donc, peut-être que je dis une bêtise, oui, mais il me semble que c'est autour des 3000.
Non, mais tu peux monter jusqu'à 3000. Tu n'es pas obligé de vivre à 3000.
Oui, si oui, oui, oui.
Mais après, tu as tes programmes d'entraînement. Et tout ça permet aux coureurs d'avoir un acclimatement à l'altitude. Qui fait qu'aujourd'hui.
On a entendu un tag. C'est arrêté là, heureusement. Franchement.
Bon, bref. Qui fait que les coureurs aujourd'hui ont peu de différence sur le plan physiologique par rapport à l'altitude.
Donc il n'y aura pas de défaillance demain à attendre de Pogacar. Ah si, Jérôme me dit oui.
Non, mais c'est le problème, après, c'est le problème poids-puissance. Oui.
Eh bien, nous verrons demain. Donc avec cette terrible étape, tu voulais ajouter un mot?
Oui, je voulais juste remercier la production et tous ceux qui nous entourent de nous permettre aujourd'hui d'être dans ces conditions radio.
Et de manger l'apéro en même temps qu'on fait une émission de radio. Ça, quand même, c'est la première fois que je fais ça.
PA, Titi, Eva, on les remercie parce que sur le tour, on n'est rien sans eux.
Et on remercie également nos chauffeurs qui en ont pour 7 heures de route pour aller installer le studio demain pour qu'il soit prêt à 14 heures pour l'intégrale Tour de France. Merci messieurs, à demain donc le bouquet final de ce Tour de France, deux grandes étapes de montagne avant le contre-la-montre de dimanche. Nicolas Villas est là, il va prendre le relais dans un instant.
Ça va
l'after, le vrai, le seul.
Ça va Chris?
Bah, écoute, on est pas mal, on est bien, on est à la fraîche dans la campagne avec du sauciflard, du fromage et voilà.
Tout moi j'ai ramené mon sauciflard aussi, il y a Walid Acharchou hein, qui se prépare et Kevin Diaz il arrive également.
Ça va lui faire plaisir.
Voilà, j'ai le fromage et le saucisson. Voilà, on vous attend 32-16 pour l'after bien sûr. On arrive dans un instant avec un gros débat sur l'OL, grosse page OL. Hein. Le projet de l'OL est-il XXL? Supporter de Lyon, on vous attend 32-16. On aura également Élise Boussaglia qui est la nouvelle entraîneur de Sedan qui sera avec nous. Et puis c'est la surprise du jour. Strasbourg qui a annoncé le départ de son entraîneur Patrick Vieira, supporter du Racing. Comment réagissez-vous à cette annonce? On vous attend 32-16. L'after arrive dans un instant sur RMC.
Retrouvez l'After Tour tous les jours pendant le Tour de France
de 19h à 20h sur RMC.